Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
C'est aujourd'hui la journée du migrant et de l'émigré, et c'est toute l'Église qui est en prière. Nous venons de chanter « Dieu de tendresse, Dieu de pitié, Dieu plein d'amour et de fidélité, Dieu qui pardonne à ceux qui t'aiment ». Demandons au Seigneur d'avoir ce cœur grand et large comme le cœur de Dieu, avoir des entrailles de miséricorde, car cet appel aujourd'hui qui est adressé et lancé au monde par le pape François, c'est le cri du cœur de Dieu. Il faut entendre, il faut s'unir à la prière de toute l'Église pour réveiller les consciences, car tous ceux qui se perdent, ce sont tous ceux-là que le Seigneur recherche, que le Seigneur veut sauver. Bien, demandons au Seigneur ce cœur bon, cœur généreux, qui voit en chaque frère une présence de Dieu. Demandons au Seigneur de convertir notre cœur, de prier aussi pour tous ceux qui, voilà, tous ces personnes aussi qui maltraitent d'autres personnes, qui obligent aussi des migrants à partir. Bien, reconnaissons-nous pécheurs. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure. Tu les traites à l'égard de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce que nous avons entendu dans l'Évangile, bien sûr, c'est une parabole. Mais concrètement, dans la vie de Jésus, comment cela s'est-il passé pour que Jésus, voilà, comment Jésus a-t-il mis en pratique cette parabole? On peut prendre l'exemple de deux personnages, je pense, celui de Pierre et celui du larron sur la croix. Jésus a rejoint Pierre, il l'a appelé, Pierre est venu à sa suite, Jésus est allé loger chez Pierre. Un jour, Pierre lui a dit, « Nous qui t'avons suivi, qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Quel sera notre héritage ?» Et Jésus lui promet quantité de frères, et puis il finit par dire, et avec cela des persécutions. Jésus a rejoint Pierre. Pierre a vécu avec Jésus, ça a duré du temps quand même, 2 ans au moins, et Pierre a cheminé. Il a suivi Jésus, bien sûr il donnera sa vie pour Jésus. Le larron, lui, Jésus l'a rejoint sur la croix. À la fin de sa vie, ses derniers moments, lorsqu'il était torturé sur la croix, Jésus partageait cette peine. Et le larron voyant Jésus le rejoindre quelque part, alors que ce larron savait que Jésus était juste, eh bien, appelle au secours, tourne son cœur, son regard, dans un cri, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et Jésus lui promet pas, non pas sans sœur, sans frère, et je ne sais pas quoi, il lui promet d'être avec lui, c'est-à-dire il lui promet Dieu lui-même. C'est ainsi, comme dit Jésus dans l'Évangile, que les derniers seront premiers, les premiers seront derniers, c'est-à-dire que le larron a précédé Pierre dans l'entrée du royaume. Et en cela, le Seigneur nous demande d'avoir quelque chose de ce regard, non pas le regard d'un maître, d'un puissant, mais plus que cela, c'est le regard d'un frère. Et encore davantage, le regard et le cœur de Dieu dans nos façons de penser, de juger, voilà, de comprendre les choses quelque part. Et c'est à cela que Dieu aujourd'hui nous interpelle à travers cet appel à la conscience qui a retenti avec le pape François. C'est quand même déchirant. Imaginons-nous traverser sur une barque et périr dans des souffrances, des effroyables. Oui, en entendant les trois lectures et le psaume, nous comprenons que le Seigneur est toujours, j'allais dire, en sortie pour rejoindre chacun là où il est et en prenant le chemin de ce chacun et non pas d'en haut. Il faut se placer à ce niveau-là. Et il va au-devant de ceux qui sont en attente et aussi de ceux qui sont en perte d'espérance, d'espoir. Et la parabole des ouvriers de la 11e heure, bien sûr, nous déconcerte autant qu'elle nous émerveille. Mais par là même, elle nous introduit dans une meilleure connaissance de la pensée la plus profonde de Dieu. Car le Seigneur Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Qui donc nous fera connaître la pensée du Seigneur, se demande saint Paul. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous recevons, tout cela est un don de Dieu. Et en attendant la parole de Dieu, il nous faut reconnaître que les pensées de Dieu ne concordent pas avec nos appréciations mercantiles. La justice de Dieu est bien supérieure, bien sûr, aux appréciations de l'homme. Et avec le psalmiste, il nous faut confesser que la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, et qu'il est juste en toutes ses voies. Il nous faut comprendre que Dieu agit comme un Père, dont la bonté est sans mesure. Qu'attendons-nous de notre Père en ce monde? D'être aimé, d'être reconnu. Oui. Et c'est cette attitude profonde qu'il nous faut avoir. Et Jésus lui-même, bien sûr, nous l'enseigne, notamment par cette étonnante parabole. Il nous faut entendre tout d'abord que c'est Dieu lui-même qui nous appelle. Dieu cherche l'homme plus encore que l'homme cherche Dieu. Et souvent l'homme écarte l'homme de Dieu. Non, il ne dort pas, ne sonne ni ne sommeille le gardien d'Israël. Et dès le lever du jour, c'est encore lui qui sort sur la place afin de rechercher des ouvriers pour sa vigne. La vendange est abondante, comme la moisson est abondante, et les ouvriers sont trop peu nombreux. Et à toute heure du jour et de la vie, il sort inlassablement à la rencontre de l'homme pour dire à tous les désœuvrés, « Allez-vous aussi à ma vigne ?» Dieu ne cesse jamais de se lever pour s'avancer vers nous. Il marche vers nous. Son désir de nous est tel qu'il n'a jamais de cesse tant qu'il ne nous a pas sauvés. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. avant même que nous l'ayons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Et il a choisi de tout perdre afin que tous, de tous nous rassembler. Nous ne sommes ni abandonnés ni oubliés. Nous sommes dans la pensée de Dieu. Le Père a une telle passion de nous qu'il n'en finit jamais de nous inviter à sa vigne, c'est-à-dire au partage de sa vie. Mais Dieu ne cherche pas que des cœurs à aimer, il cherche aussi des bonnes volontés. C'est, je crois, le deuxième enseignement de la parabole. Dire « Seigneur, Seigneur » ne suffit pas. Dieu veut bien sûr des âmes brûlantes, et il en faut, mais il veut aussi des âmes agissantes et qui fructifient. N'oublions pas que notre existence est comme une vigne où le Seigneur est à l'œuvre. Nous avons nous-mêmes à être travaillés, taillés, plantés, fructifiés. Le travail est avant tout pour l'homme et non l'homme pour le travail, a écrit Jean-Paul II dans son encyclique Laborem Exercens. Mais en travaillant aux œuvres de Dieu, l'homme devient un peu plus fils de Dieu. Mon Père travaille et moi aussi je travaille, nous dit Jésus. Celui qui est en Dieu est devenu semblable à nous, a consacré la plus grande partie de sa vie au travail de charpentier, où chaque jour Dieu nous appelle à coopérer à l'avancée du royaume. Allez vous aussi travailler à ma vigne. Attendre le ciel ne suffit pas. Il se conquiert aussi par le travail de la vigne. Et la vigne du Seigneur Tout-Puissant, c'est la terre des hommes aussi. Certes, pour moi, vivre, c'est le Christ, déclare saint Paul, et mourir serait un gain. Il faut donc œuvrer comme Dieu agirait par nous. C'est cela. Il faudrait avoir ce réflexe, ce que je fais, ce que je pense, comment j'agis. Il faut que je le fasse comme si Dieu vraiment agissait en moi. Et Dieu ne juge pas selon l'étroitesse de nos estimations, mais selon la magnificence de son cœur. Nous sommes toujours en deçà du bonheur proposé par Dieu, comme nous nous risquons à le lui demander. Par ailleurs, où serait la justice dans la parabole? Ainsi chacun peut-il répondre s'il le veut, dès qu'il lui est donné d'entendre la voix du Seigneur, puisque ce qui a été promis au premier a été donné, et Dieu n'a pas joué, j'allais dire, en cache-cache. Il a d'abord appelé ceux qui sont venus les derniers, pour que ce soit clair, et il a donné selon son cœur. Et au premier, il a donné ce qui a été convenu. Mais le cœur a ses propres raisons et Dieu veut donner. Il donne tout son bien. Ils n'ont pas reçu moins. Ils ont reçu ce qui était convenu au premier et selon le cœur de Dieu au deuxième. Au fond, c'est l'envie qui fait chuter l'homme au premier jour. Il ne faut pas que la jalousie nous fasse encore trébucher au dernier soir. Nous ne pouvons plutôt le tolérer d'avoir pour critère l'étroitesse de notre cœur quand nous est proposée l'action de grâce devant la largesse du cœur de Dieu. Il se rend malheureux celui qui s'enfonce dans la mesquinerie, l'envie, quand éclate la joie, de joie celui qui se félicite d'avoir la faveur donnée à son frère. Qu'a donc un tel pour être heureux? Simplement ceci. Il a banni de sa vie toute trace de jalousie. La jalousie, c'est le premier péché, celui qui est le plus répandu. Et la pièce d'argent remise par le maître au soir de la vie, c'est le bonheur suprême du royaume éternel. Au fond, je finirai là. Rappelons-nous que Jésus s'est lui-même déclaré être la vigne qui porte son fruit en donnant sa vie, en versant son sang. Suprême preuve de son amour, signe sacramentel de ce sang versé pour sceller l'alliance nouvelle. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est demeurer dans son amour, et cela n'a pas de prix. Il nous faut contempler et aimer Marie, notre mère, pour nous souvenir que tous les enfants de la terre, tous, sont ses enfants, et donc apprendre d'elle à vivre en frère, et se réjouir qu'un jour nous serons dans le cœur même de Dieu. Amen.